Bienvenue dans le deuxième podcast de l'année. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première séquence d'histoire qui s'intitule « Le XVIIIe siècle, expansion, lumière et révolution ». Et dans ce premier podcast d'histoire, nous allons d'abord nous intéresser au premier chapitre qui lui s'intitule « Bourgeoisie, commerce, traite et esclavage au XVIIIe siècle ». Dans la première partie du cours, qui s'intitule « L'expansion du commerce atlantique », nous nous sommes intéressés à l'exemple du port de Bordeaux. Il s'agissait, à travers cet exemple, de comprendre que les ports de la façade atlantique, que ce soit Bordeaux, Nantes, La Rochelle ou Londres, vont connaître tout au long du XVIIIe siècle un grand enrichissement et un développement important. Cet enrichissement, ce développement est dû à l'expansion du commerce atlantique avec les colonies. Le port de Bordeaux va voir le commerce de marchandises, essentiellement du vin, mais aussi du blé, des draps et de la quincaillerie, être multiplié par 3 au cours du XVIIIe siècle. L'augmentation de ce trafic de marchandises va permettre l'enrichissement de la bourgeoisie marchande de la ville, qui, grâce à cette nouvelle fortune, va modifier l'architecture de Bordeaux en se construisant notamment un certain nombre d'hôtels particuliers. À travers cet exemple, il s'agit donc de comprendre que le commerce mondial a changé de centre de gravité. Au Moyen-Âge, que vous avez étudié l'an dernier, l'essentiel du commerce international se fait autour de la Méditerranée et il profite en particulier aux villes italiennes de Gênes, de Pise, de Venise. La découverte de l'Amérique et la découverte des colonies va faire que ce centre de gravité va se décaler vers l'ouest et en particulier vers la façade atlantique. Dorénavant, la majorité des bateaux circulent entre l'Europe et les colonies. Lors d'une deuxième heure, nous avons réalisé la carte du monde au XVIIIe siècle. Il s'agissait de se rendre compte à travers cette réalisation qu'au XVIIIe siècle, les États européens dominent le monde. En effet, l'Espagne, le Portugal, la France, le Royaume-Uni, mais aussi les Provinces-Unies, se sont emparés de nombreuses colonies dans le monde, en particulier sur le continent américain. Ils possèdent également des comptoirs en Afrique et en Asie. L'Espagne, qui est à l'origine de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, va se tailler la part du lion. En effet, elle va dominer la plus grande partie de l'Amérique latine. Le Portugal, qui est lui aussi une grande nation d'explorateurs et de découvreurs, va s'emparer du Brésil. La France et le Royaume-Uni vont démarrer plus tardivement la colonisation et eux, ils vont s'emparer des Antilles et de l'ouest de l'Amérique du Nord, notamment le Canada. Très rapidement, dans les colonies, se met en place une économie de plantation. On y cultive en effet du sucre, du cacao, du tabac, du café, du coton et bien d'autres produits dans le cadre de plantations dirigées par des Européens. La forte hausse du commerce transatlantique va être à l'origine de la création de grandes compagnies de commerce. Ces grandes compagnies de commerce sont des associations de commerçants qui mettent en commun leurs ressources, leurs bateaux, et certaines vont devenir très puissantes. La plus célèbre et la seule qu'il faut connaître en classe de 4e est la Compagnie des Indes. Dans une grande deuxième partie, nous nous sommes ensuite intéressés à ce qu'on appelle les traites négrières européennes, mais aussi à la vie des esclaves dans les plantations. Vous avez pu comprendre, grâce à l'extrait de Amistad diffusé en classe, mais aussi grâce aux planches de bande dessinée distribuées, comment fonctionnent ces traites négrières européennes et quelles en sont les principales étapes. Les négriers européens, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui sont à l'origine de ce trafic, quittent les ports de la façade atlantique en Europe avec leurs bateaux. Leurs cales sont remplies de diverses cargaisons, notamment de la quincaillerie, des miroirs, des bijoux, de l'alcool ou des armes, et ils se dirigent vers les côtes africaines. Sur place, en Afrique, ils vont utiliser ces cargaisons pour les échanger contre des esclaves noirs capturés par des rois locaux africains. Les capitaines des négriers choisissent avec soin leurs esclaves. On examine notamment leurs dents pour voir s'ils sont en bonne santé. Les esclaves sélectionnés sont ensuite marqués au fer rouge, puis ils sont embarqués sur les bateaux négriers. Ils sont parfois jusqu'à 5 ou 600 esclaves par bateau. Ils sont entassés au fond de la cale des bateaux dans des espaces si étroits qu'ils ne peuvent pas tenir debout. Cette promiscuité favorise bien évidemment les épidémies, mais les captifs sont bien nourris car ils ont une grande valeur marchande. L'objectif des capitaines est quand même d'en ramener le plus possible vers l'Amérique afin de faire un profit important. Pour autant, à cause des tempêtes, à cause aussi des mauvais traitements à bord, à cause éventuellement des pirates qu'on peut rencontrer sur la route, à cause des naufrages, on estime que la moyenne des pertes chez les esclaves est d'environ 20%. C'est-à-dire que pour un bateau qui contient 500 esclaves, on estime que 100 esclaves vont mourir durant la traversée. Cela dit, ce taux est à peine plus important que pour le reste de l'équipage. Une fois cette éprouvante traversée terminée, donc une fois arrivés en Amérique ou dans les Antilles, les esclaves sont remis en forme pendant plusieurs jours. C'est-à-dire qu'on les nourrit bien, on les lave, on huile leur corps pour qu'ils soient présentables afin d'en obtenir le meilleur prix. Ils sont ensuite vendus aux enchères à des propriétaires européens de plantations. Ils seront ensuite emmenés vers ces plantations afin de travailler jusqu'à la fin de leur vie. Dorénavant, leur vie d'esclave est réglementée par le Code Noir. Ce Code Noir date de 1685 et il normalise les rapports entre les maîtres et les esclaves. Ces esclaves sont dorénavant considérés comme des biens soumis à leur maître et ce maître a le droit de vie et de mort sur eux. Les esclaves sont dorénavant condamnés à travailler 6 jours sur 7 dans les plantations ou pour les plus chanceux comme domestiques. Ils sont souvent mal nourris, mal logés et subissent de fréquents châtiments corporels, notamment s'ils essaient de fuir ou si le maître considère qu'ils ne travaillent pas suffisamment. Les affranchissements, c'est-à-dire la libération d'un esclave par son propriétaire, sont plutôt rares. Les mauvaises conditions de vie expliquent que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les révoltes d'esclaves se multiplient. C'est ce qu'on appelle le marronnage. Nombreux sont les esclaves qui fuient les plantations pour échapper à leurs terribles conditions de vie. Et ils trouvent des armes et vivent dans la clandestinité. Au total, ces traites négrières européennes auront duré 3 siècles. Elles commencent au début du XVIe siècle et durent jusqu'aux années 1860. Les principales puissances négrières ont été, dans l'ordre d'importance, le Portugal, la Grande-Bretagne et la France. Au total, on estime que plus de 12 millions d'Africains ont été victimes de ces déportations. L'apogée de ces traites négrières a été le XVIIIe siècle. En effet, tout au long de ce siècle, la traite transatlantique va déporter de 6 à 8 millions d'esclaves africains dans le cadre de ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Ces traites négrières européennes vont occasionner une véritable saignée démographique pour le continent africain. Aux 12 millions de déportés, il faut ajouter les Africains tués lors des razzias. On estime en effet que pour un seul esclave, on tue jusqu'à 4 personnes lors des razzias dans les villages. De ce fait, l'équilibre démographique du continent africain est gravement perturbé et pour très longtemps. On estime que la saignée humaine a été si importante qu'elle explique encore en partie pourquoi, aujourd'hui, l'Afrique est l'un des continents les moins peuplés du monde. On estime également que le départ d'hommes et de femmes dans la force de l'âge empêche le renouvellement des générations. La chasse aux esclaves instaure également un état permanent de violence. Elle contribue à aggraver les guerres entre les différentes ethnies africaines. Du coup, l'Afrique se trouve plongée dans une ère de désordre. Et donc, elle va connaître un profond déclin à partir du XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, l'Afrique est en plein déclin matériel et moral, et elle sera donc une proie facile pour la colonisation européenne du XIXe siècle, dont on reparlera dans le courant de l'année.